Esther Senot avait 15 ans quand elle a été déportée depuis Drancy. C'était le 2 septembre 1943. Elle a survécu à Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen et Mauthausen. Elle a fait les marches de la mort et aujourd'hui, inlassablement, elle témoigne pour que personne n'oublie, comme elle l'a promis à sa sœur. Je vous propose de la retrouver et d'écouter son témoignage.
Pour parler de la libération du camp, disons que moi, je suis resté à Birkenau 17 mois, deux hivers, et là, le 17 janvier au matin, nous avons eu un appel pour évacuer tout le camp qui courait dans tous les sens, avec sifflet et matraque pour nous pousser dehors, en disant que nous avons le droit d'emmener notre couverture, et là, nous sommes donc partis. Nous avons quitté le 17 janvier au matin, nous avons donc quitté le camp de Birkenau. Donc, il faisait une température de moins 20. Quand je dis que je suis resté 17 mois à Birkenau avant d'entamer cette marche de la mort, ça a été vraiment très, très, très difficile. Disons que j'avais connu une jeune femme à Drancy qui avait 5 ans plus que moi. Et nous avons été les deux seuls survivants de notre transport au départ de Drancy. Alors, cette marche de la mort, le premier jour, évidemment, on marchait à peu près correctement en rang par 5, encadré par les SS de chaque côté. Donc, on a marché toute la journée, à peu près en se tenant les unes avec les autres pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. Alors, au bout de quelques... La nuit commençait à tomber. Ils ont trouvé une grange désaffectée au bord de la route. Donc, ils nous ont poussé à l'intérieur de cette grange pour dormir quelques heures. Et à peine quelques heures, ils nous ont fait ressortir pour refaire cette fameuse marche qu'on a dû, ceux qui viennent témoigner. Donc, tous les camps qui étaient en Pologne, dans la région de la Haute-Silésie, ont été évacués également ce jour-là pour faire la marche, cette marche de la route dans différents chemins. Alors finalement, le deuxième jour, évidemment, ça commençait de plus en plus pénible. Et alors malheureusement, quand il y avait quelqu'un, une femme ou un homme qui tombait, qui glissait, qui ne pouvait plus marcher, le SS arrivait et avec son pistolet, mettait une balle dans la nuque. Alors évidemment, c'était... On ne savait plus comment on allait finir. Et... Nous, ce qu'on a été, enfin, qu'on avait décidé de faire, c'est de retirer les personnes qui avaient été tuées au milieu du convoi, si vous voulez, de les sortir, parce que ceux qui arrivaient derrière butaient. Alors là, évidemment, on est arrivé jusqu'à Glewitz, je crois que ça faisait à peu près, je sais pas comment, mais ça dit 60 ou 80 kilomètres de Birkenau, et là, nous attendaient, des wagons découverts. Vous voyez, des wagons qui transportaient comme du charbon. Donc, évidemment, on s'est retrouvé entassés dans ces wagons. Alors là, évidemment, on avait fini de marcher, entassés les unes sur les autres pour se réchauffer. Et nous sommes arrivés dans le camp de Bergen-Belsen. Et là, évidemment, ça a été l'horreur absolue. Pour arriver à Bergen-Belsen, c'était un camp, disons, un véritable bourgeois à ciel ouvert, avec des épidémies de typhus, et puis de voir tous ces enfants dans l'état qu'ils étaient avec leur mère, enfin, ça a été une horreur. Et en plus, ça, tous les transports qui avaient été faits pour évacuer le camp d'Auschwitz, ce camp était quand même surchargé, il n'y avait plus de place dans les parades, parce que les Allemands n'évacuaient même plus les ports. Et là, on est resté très peu de temps, parce qu'il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement. Finalement, on est resté quelques temps donc à Bergen-Belsen, et là, on a été sélectionné pour aller travailler dans les usines d'armement. Alors évidemment, nous, on a quitté Birkenau le 17 janvier, et là, le monsieur a expliqué, donc, le 27 janvier, que le camp était libéré, le camp d'Auschwitz. Et nous, malheureusement, on n'était plus là. Et finalement, Ils nous ont mis de nouveau, à ce moment-là, ils ont sélectionné une centaine de femmes avec une belle femme. Ils nous ont mis de nouveau dans des wagons à bestiaux. Alors, c'est-à-dire que là, ça a été vraiment dramatique. C'est que, comme les Russes avançaient très vite, quand ils ont découvert les camps de Auschwitz, donc, ils ont commencé par bombarder les dunes de chemin de fer. De l'autre côté, il y avait les Alliés qui bombardaient. Nous, on était enfermés dans ces wagons à bestiaux, en disant, si à la fin, pratiquement à la fin de la guerre, on va mourir dans ces wagons enfermés. Finalement, on a encore eu un peu de chance. On nous a mis sur une boîte garage, en attendant de réparer les rails, parce que le transport des Juifs était quand même prioritaire. Nous sommes arrivés dans un camp, le camp de Flossenbürg, dans le sud de l'Allemagne. Et là, on nous a mis dans un camp annexe. Mais là, on n'a jamais travaillé, c'était très très peu de temps. Et de nouveau, il y a eu une évacuation de ce camp de Flossenbürg. Et on s'est retrouvé de nouveau dans les wagons à bestiaux. Alors là, ça a été assez dramatique, parce que le train s'arrêtait. On nous mettait sur des voies de garage. Ils ouvraient les portes, on était obligé de sortir les personnes qui étaient mortes pendant ces trajets. Et puis on est arrivé pour ça jusqu'en Tchécoslovaquie, où là le train s'est arrêté sur une boîte de garage, et là ils ont ouvert les portes pour qu'on puisse évidemment, comme d'habitude, sortir les personnes qui étaient mortes. Et là on s'est trouvé horrifié, parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines de wagons ouverts avec que des cadavres qui étaient abandonnés sur ces voies de. Donc finalement, on a fini par repartir, on est arrivé au camp de Mauthausen en Autriche. Donc là, au camp de Mauthausen, quand on est arrivé, le camp était à peu près à 6 km de la gare. Donc on est parti à pied, évidemment, quand on est descendu du train. On est parti à pied, on a traversé quelques villages autrichiens, où là, évidemment, passant eux, nous jetaient des pierres. Quand le camp a été libéré, ça n'avait pas qu'il y avait un camp à côté de chez eux. Et puis finalement, on est arrivé au camp de Mauthausen, on nous a mis sur la place d'appel. Et là, évidemment, c'est depuis des SS qui nous gardaient, parce qu'ils avaient tous pratiquement envoyés au front. C'était des Allemands qui avaient réquisitionné d'un nuit pour les remplacer. Alors, sur la place d'appel, ils ont commencé à nous dire, vous allez vous déshabiller, prendre une douche, parce que vous êtes couverts de vermine. Alors, évidemment, on s'est regardé, parce qu'on était quand même plus tellement nombreux. Alors, c'est descendant, nous, les douches, on connaît. Ben, si on va mourir, on va mourir sur la place d'appel, mais on n'ira pas aux douches. Mm-hmm. Alors là, on a passé des heures et des heures debout, comme ça, sans bouger. Et puis finalement, ils ont vu qu'on bougeait pas, ils nous ont propulsé dans le contrebas du camp de Mauthausen, où il y avait deux baraques de vide, avec une petite cour devant. Et donc, on est resté là. Alors, tous les matins, on avait l'appel. Là, ça, c'était vite fait, parce qu'on n'était pas très nombreuses. Et puis, de temps en temps, de moins en moins de nourriture, bien sûr. Et on est arrivé comme ça jusqu'au 5 mai 1945, où là, le matin, nous avions encore eu l'appel. Et à 1h de l'après-midi, c'est beau, on était assis par terre avec mon ami Marie. Et puis, on se lamentant en disant, bon, bah là, c'est la fin, on ne pourra jamais aller plus loin. Et là, on n'a plus... En début d'après-midi, le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. Donc, les Allemands étaient partis. Ils avaient ouvert le camp en disant qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient miner le camp. Enfin, c'est ce qu'ils disaient toujours à chaque fois qu'il fallait faire un camp. Et là, on a vu descendre les premiers déportés en courant, en disant ne restez pas là, ils vont arriver, ils vont tuer tout le monde. Alors, finalement, avec Marie, on a décidé d'essayer, puisque c'était ouvert. Et là, on a longé un sentier le long du Danube, et on est arrivé dans une clairière où il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent, qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là, qui servaient de main-d'œuvre dans ce couvent. Ils nous ont donc menacés, et là, ils nous ont emmenés dans leur baraque, évidemment, on était presque inertes, on pouvait pas manger. Et finalement, les Allemands ont capitulé le 8 mai 45. Donc, il y a eu un partenaire de juin américain qui a occupé cette Akutal. Des Allemands qui sont venus nous récupérer. Et de là, ils ont commencé évidemment à nous désinfecter. On a pris une douche, nous ont pesé, je ne pesais plus que 32 kilos, vous voyez, que le temps de la guerre se termine. Ils nous ont passé des examens un peu plus approfondis, et on avait attrapé le typhus, parce que les deux baraques du Krumatthausen, c'était l'ancienne infirmerie. Donc on a été soignés, comme dans toutes les armées, il y a des médecins militaires, et on est resté dans cet hôpital jusqu'à fin mai, début juin 1945, où là, on a été rapatrié sur la France, à Villers-Coublay, où on s'est retrouvé donc à l'hôtel Lutetia. Alors, on est passé par l'hôtel Lutetia c'était de coutume à l'époque, on nous a fait des cartes d'identité provisoire, enfin, vous voyez, pour le système. Puis là, évidemment, ça a été assez pénible parce que vous aviez des centaines de gens qui étaient devant l'hôtel Lutetia avec des photos en disant que vous avez connu un tel ou un tel. Évidemment, c'était difficile de répondre. Et vous savez, même au bout de 3 semaines d'hôpital, on n'est quand même pas très vaillante. Hein. Ben voilà, là, ça s'est terminé comme ça. Donc, à l'hôtel Lutetia, ceux qui avaient la chance de trouver des femmes, la famille, ben, ils repartent avec eux. Et puis, comme moi, toute ma famille, disons qu'au moment de la rafle du Verdict, il y a eu 17 personnes de ma famille qui ont été arrêtées. Et ma famille personnelle, dans ce moment, mon père, ma mère, deux frères, et ma sœur et moi. Donc, je suis la seule survivante de toute ma famille. Alors, évidemment, je me suis retournée toute seule après la guerre. Ça a été pénible de refaire surface et de se faire une vie normale. Alors, pour le fait de parler, ce qui m'a motivé pour faire le témoignage, c'est que quand je suis arrivé en septembre 43, le premier hiver, le mois de décembre 43, nous avions, après tout le travail que nous avons effectué, je vais vous en parler parce que ça a déjà été fait. Nous avions droit d'aller dans une baraque qu'on appelait les latrines. C'est-à-dire, on avait le droit de faire nos besoins. Et là, en décembre 43, je me suis retrouvé dans ces fameuses latrines. Et là, tous les autres personnes qui étaient déportées, qui étaient dans les autres baraques, on ne les connaissait pas. On connaissait que ceux qui dormaient avec nous et qui travaillaient avec nous. Alors là, on avait l'opportunité de rencontrer des déportés des autres baraques. Et là, malheureusement, j'ai vu arriver ma sœur, que j'avais perdue de vue au moment de la rafle du Veldiv. Alors, évidemment, moi, je ne l'ai pas reconnue parce que elle a été arrêtée en novembre 42, elle a été déportée en février 43. Il faut vous dire que en février 43, du camp de Drancy, est parti 3 convois à 48 heures d'intervalle.
Non.
Évidemment, quand elle m'a reconnu, moi, ça faisait 3 ou 4 mois que j'étais à Birkenau, disons que physiquement, j'avais pas tellement changé, parce que pour vous dire, entre mes parents qui ont été arrêtés en 42 et moi en 43, je peux dire que pendant un an, j'ai traîné la galère toute seule dans Paris. Vous savez, à 14 ans, c'est pas évident, hein. Alors finalement, elle m'a demandé évidemment où je travaillais. Je travaillais dans les commandes extérieures, vous dire, quand on est arrivé sur la rente, quand on est descendu de Wagon-Bissau, on a été sélectionné à 106 femmes pour aller travailler dans le camp. Et sur les 106 femmes, au mois de décembre 43, on n'était déjà plus que 50. Il y avait déjà la moitié de ce combat qui était passé dans les chambres grasses parce que elle n'avait plus la force, parce que le matin, quand on avait l'appel, celles qui ne sortaient pas l'appel, c'est qu'elles ne pouvaient pas aller travailler. Donc, elles étaient inutiles pour les Allemands. Alors, celles qui ne sortaient pas l'appel, eh bien, elles étaient immédiatement embarquées dans l'après-midi, directement au crématoire, mais elles sont, elles, que pas travailler, ils n'en avaient pas besoin. Donc, finalement, ma sœur a demandé, je travaillais quand elle a expliqué à l'extérieur, elle a fait la connaissance d'une jeune femme qui avait été déportée de Belgique et qui était interprète parce qu'il n'y a pas de prise de langue, etc., qui avait les fichiers des commandos où on travaillait. Enfin, elle a réussi à les retrouver comme pas mal de gens, à me faire sortir de ce commando pour travailler à l'intérieur du camp. Et là, tous les matins, j'allais voir ma soeur que je voyais dépérir, évidemment, de jour en jour, parce que ça faisait pratiquement 10 ou 11 mois qu'elle était déjà au camp. Et puis un jour, je suis arrivé dans sa baraque un matin, après l'appel, et puis ma soeur n'était pas là dans la baraque, alors j'ai demandé aux femmes qui étaient avec elle, mais où elle est, ma soeur, mon Dieu, elle n'a pas voulu se lever. Ils l'ont envoyée à l'infirmerie. Alors, moi, je me suis précipité à l'infirmerie. J'ai trouvé ma soeur allongée sur une paillasse qui était dans un état pitoyable, elle crachait du sang, elle avait des plaies ouvertes un peu partout, elle était mordue par un chien. Alors je lui ai dit, Fanny, tu peux pas rester là, tu sais ce qui va t'arriver. Elle m'a dit, écoute, pour moi c'est terminé, j'ai fait le maximum pour essayer de survivre, de revenir, et là maintenant c'est terminé. Elle me dit, toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir, essaie de tenir le coup, si t'as une chance de revenir, de raconter ce qui nous est arrivé, tout ce qu'on a pu supporter, tous les sévices, enfin, tout ce qu'on a pu supporter dans ce camp. Elle dit, ce que tu me promets, pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Évidemment, elle est retombée sur sa paillasse pour travailler. Et, vous savez, heureusement que j'avais mon ami Marie avec moi, vous savez, on avait une forme de petite solidarité, on n'avait pas grand-chose à partager, mais enfin, on ne s'est jamais quitté. On est reparti comme ça, donc jusqu'au début. Donc on voyait arriver tous les convois qui arrivaient de l'Europe entière. Et on pensait que même du fait que tous ces événements, que la guerre allait bientôt finir, malheureusement à partir de 1944, ça a été une véritable hécatombe. Là, ils nous ont fait sortir du camp. Comme on est arrivé sur un quai qui était à quelques kilomètres du camp. Ils appelaient la Judenrampe, la rampe des Juifs. Donc les rails qu'il y avait là, il a fallu les démonter pour les monter devant le camp. Ah oui, la photo, des photos qu'on voit dans les documentaires, vous voyez des rails devant le camp de Birkenau. Et ces rails, on fallait les déposer devant l'entrée du camp, jusque devant les chambres à gaz. Et ça, c'était pour les convois qui arrivaient en 1944, le premier convoi des ronds croissants. Là, voilà. On finit comme ça, par s'adapter. Et finalement, quand je suis revenu, dans des conditions dans lesquelles on est arrivé, vous savez, on est arrivé, nous, un an après la libération de la France, les gens recommençaient à vivre, vous savez, une vie tout à fait normale. Ça a été très bien vu, c'est pour rien. Et alors, évidemment, nous, quand on est arrivé avec toute la misère du monde sur nos épaules, on est arrivé dans l'indifférence totale. Alors, avec Marie, un jour, j'ai dit, je voudrais retourner dans mon quartier pour voir si peut-être, on se fait toujours des illusions en disant que peut-être une partie de la famille est partie dans un autre camp, que c'était peut-être différent. Alors là, quand on est arrivé, évidemment, quand on voit deux jeunes femmes avec 30, 32, 33 kilos, les cheveux rasés, un an après la guerre, on n'en voyait pas beaucoup. Alors on a eu un petit attroupement de gens qui sont venus vers nous en disant, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors on a commencé évidemment à vouloir parler de ce qui nous est arrivé. Et puis on voyait qu'ils commençaient à s'énerver en disant, mais vous êtes devenus folles, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister, quelle idée de partager des choses pareilles. Et je vois un monsieur qui nous regarde en face en nous disant, mais en fait, vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? Finalement, on a été pratiquement culpabilisés d'être revenus. Et ça a duré pendant des années, malheureusement, on n'a pas eu de pas la parole, parce que ça se faisait pas à cette époque-là. Alors, les seuls qui avaient droit à la parole, c'était évidemment les déportés politiques, les résistants, du fait que eux, dans le fond, quand ils se sont engagés dans la résistance, ils savaient les risques qu'ils prenaient. Ils savaient que s'ils étaient arrêtés, ils risquaient d'être fusillés ou déportés, alors que nous, on a été déportés uniquement du fait qu'on était juifs, c'était sans intérêt. Donc, on est resté comme ça dans le silence absolu pendant des années, jusqu'au moment où on a fini par avoir le droit à la parole quand président Chirac a fini par reconnaître la responsabilité du gouvernement français. Donc là, on a commencé à vouloir témoigner. Donc disons que moi, la promesse que j'avais faite à ma sœur était, c'était difficile de dire, on ne peut pas parler parce que personne ne veut nous croire. Alors là, évidemment, j'ai commencé à témoigner de très bonne heure. Et vous voyez, jusqu'à maintenant, j'ai passé presque un siècle.